une flamme sacrée nous monte du Poitou, et la France enivrée salue ton ventre mou.
Salut Normée, je t'appelais pour te dire que au sujet du lundi de Pentecôte, je trouve que c'est n'importe quoi d'avoir supprimé, mais vraiment n'importe quoi. En tout cas, moi je suis au collège, et ben, je n'irai pas, ok? C'est clair? Je n'irai pas. Willy, roi authentique.
Bonjour, je suis professeur des écoles. Lundi, je serai en grève parce que j'aime mon travail et ne veux pas m'y rendre comme une esclave. D'autre part, je paye mes impôts et j'estime que le gouvernement doit gérer l'argent des Français correctement. Mais que ce jour de grève, j'espère que mon recteur pensera à en verser le montant de ma journée de salaire, montant qu'il va économiser, et qu'il le versera à la caisse créée pour les personnes âgées. Comme ça, le gouvernement va doubler la mise. C'est pas de la solidarité, ça? Bonsoir.
Bonjour, Brigitte de Paris. Alors, je vous appelle pour ajouter une toute petite perle, mais une jolie petite perle quand même, au long collier de la connerie. Voilà, à propos du lundi de Pentecôte, mon père est un monsieur âgé de 93 ans, et il a appris il y a quelques jours que l'association parisienne qui lui procure une aide ménagère a donné la journée fériée. Donc, journée où nous devrions travailler pour les personnes âgées, eh bien, ce petit monsieur âgé va se retrouver à faire sa petite cuisine tout seul parce que bah, la dame sera en congé. Voilà, jolie petite perle.
Oui, salut à tous. Bah, dis donc, c'était sacrément bon à entendre ce qu'on a entendu là, dans cette émission sur le lobby Bruxelles. Je pense qu'on peut dispenser de lire le traité dans le texte langue étrangère, langue de coquin et de jargon. Voilà, donc non, c'était froid dans le dos en même temps. On réalise à quel point on est en notre démocratie n'est qu'un vain mot, n'est qu'une virtualité.
Oui, bonjour Daniel, je viens d'écouter l'émission sur le lobbying. Et bien maintenant, je sais vraiment pourquoi je vais voter, mais surtout contre qui je vais voter. J'ai envie de dire non, non seulement à un traité qui me semble insipide, mais aussi dire non à des gens, à des cow-boys sans foi ni loi qui, sans vergogne, mettent à mal notre santé, mettent à mal notre pouvoir d'achat et ne mettent à mal la planète. Ou participe du moins à ce saccage de la planète. Et que laisserons-nous à nos enfants? Que laisserons-nous à nos descendants? C'est vraiment très, très inquiétant. Mais maintenant, j'ai très, très bien compris. Merci pour ton émission. C'était Violette de Poitiers. Au revoir.
Salut Daniel, c'est Antonin. Bon, bah, je voulais te remercier pour ce petit voyage sur la lobe du planète qui, ma foi, remet toujours en cause mon vote pour le dimanche 29 et me laisse toujours dans la réflexion. Salut.
Eh ben, c'est bien si ça vous laisse dans la réflexion. En tous les cas, le premier épisode de la balade dans la lobby planète de vendredi vous a passionné, vous a appris des trucs quand même. Et du coup, on va continuer aujourd'hui, donc à Bruxelles. C'est un temps idéal pour se balader dans ce quartier absolument sinistre qu'est le ventre, le nombril de cette Union européenne, là où les multinationales construisent l'Europe et l'économie mondiale par le truchement, effectivement, de ces lobbies, de ce lobbying dont on sait si peu de choses chez nous. Donc on va continuer la découverte avec ceux qui ont créé un guide de la, une carte de la, des points principaux où dans Bruxelles, dans ce quartier, dans le quartier de l'Union européenne à Bruxelles, on peut de découvrir qu'est-ce qu'il y a au 6, par exemple, de l'avenue Gortenberg, qu'est-ce qu'il y a autour du rond-point Schumann, qu'est-ce qu'il y a rue de la Verveine, etc. Eh bien, là, il y a les grandes entreprises multinationales très discrètement présentes et les lobbies qui se chargent de défendre leurs intérêts auprès de la Commission et de l'Union européenne tout entière. Alors si on a le temps, parce que c'est quand même, ça vous étonne peut-être qu'on travaille un jour comme aujourd'hui, je voudrais dire aussi, j'ai un petit message personnel à, qui n'intéresse qu'une seule personne, je dois dire, je dois prononcer l'expression enfoiré mondain, donc voilà, c'est fait, c'est un message personnel à une personne bien particulière, et vous vous étonnez peut-être qu'on soit là aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils font, ils travaillent, etc. Alors, on a voulu soutenir, évidemment, vous en doutez, notre Premier ministre qui est mal en point, non seulement au plan de sa santé, mais aussi de ce lundi assez catastrophique. Aussi, essaierons-nous, d'ici à la fin de cette émission, plutôt à la fin de cette émission, de lui interpréter tout son cœur, vous dans vos voitures, à la maison, où vous pouvez, et nous ici dans le studio, l'hymne désormais fameux, Raffarin, nous voilà. Raffarin, nous voilà. Donc, vous pouvez trouver les paroles intégralement sur le site Radio France, www.radiofrance.fr. France Inter, là-bas si j'y suis, Pascal vous a mis les paroles intégralement de cette hymne immortel dont les paroles sont dues à un certain Jérôme Bourdelon. Alors on aura peut-être le temps d'ici à la fin de l'émission de reprendre ça tous en cœur en ce lundi de Pentecôte, sinon ce sera pour demain, ce sera pour après-demain, on ne perd rien pour attendre. Auparavant, d'ici là, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Chirac a dit que ceux qui votaient non étaient des moutons noirs. Je suis fier d'être un petit mouton noir.
Ici, c'est Jean-Marie de Romorantin, sympathisant socialiste qui vote à gauche depuis toujours. J'ai sillonné le monde pour des raisons professionnelles pendant 15 ans, et quand j'entends ce que j'entends sur le répondeur de là-bas si j'y suis, j'ai honte d'être français. Les étrangers jugent que les Français ne sont bons que pour défiler dans des manifestations et faire grève tous les 4 matins. Ils ont bien raison. Jugeant que la politique menée par Lionel Jospin n'était pas assez à gauche, ceux qui font la promotion du non aujourd'hui au traité constitutionnel sont ceux qui ont fait élire Chirac avec 80% des voix. Les mêmes qui réclament plus de social, plus de démocratie pour le traité risquent, si le non l'emporte, d'atteindre les objectifs contraires. Certes, le traité sera sûrement renégocié, mais cette fois-ci avec une France ayant dit non affaiblie et avec des défenseurs de l'ultralibéralisme qui imposeront leur volonté. Un boulevard pour l'ultralibéralisme, voilà ce que nous préparent les défenseurs du non. J'entends même des gens qui souhaitent le retour de la guerre froide avec une Russie forte pour faire barrage à la politique américaine. Alors là, non seulement j'ai honte, mais j'ai peur. Pourquoi pas le retour du communisme en France pour que notre pouvoir d'achat ressemble à celui de Cuba dans 10 ans? Les Français sont parmi les peuples les plus heureux du monde. Ils n'ont jamais au cours de leur histoire été aussi heureux qu'aujourd'hui. Et voter oui, c'est faire en sorte que cela continue, que la France puisse continuer à faire avancer l'Europe dans le bon sens. Voter non, c'est isoler la France, l'appauvrir et faire plus de chômeurs à terme dans notre pays. Merci.
Bonjour, c'est Jacques de Marseille. Daniel, je viens d'écouter l'émission sur les lobbies de Bruxelles. Alors que des lobbies qui sont payés par des grandes entreprises travaillent pour elles, je trouve ça tout à fait normal. Mais que des journalistes qui sont là pour nous informer ne nous en aient jamais parlé, que des politiques qui sont élus pour nous défendre ne nous en aient jamais parlé, là ce n'est pas du tout normal. Finalement, le débat sur la Constitution est en train de mettre en lumière quelque chose d'encore plus fondamental. C'est l'existence d'une sorte d'establishment européen, déjà mondialisé, et qui veut finalement asservir tous les peuples européens pour gagner encore un peu plus d'argent. Nous avons finalement recréé une aristocratie beaucoup plus dangereuse que celle de 1789, parce que celle-là, elle est invisible, et ceux chargés de nous la montrer nous font fermer les yeux. Alors, bravo pour la nouvelle lutte sociale indispensable aux peuples européens. Votez non. C'est Jacques de Marseille. À bientôt.
Ici Rennes. Les Français du non parlent aux Français du non. Veuillez écouter un message personnel. Mardi 17 mai, à partir de 18h, grand forum débat-meeting pour une Europe sociale, solidaire et démocratique, Al Martenot, place des Lys, à Rennes. Venez nombreux et faites circuler l'info. Merci.
Bonjour à tous. Alors à tous ceux qui sont plongés dans la lecture du traité sur la Constitution européenne, et pour ceux qui n'auraient peut-être pas le courage d'aller jusqu'à la partie 4, je vais vous lire un article qui me semble assez intéressant. C'est l'article 11. Donc je le lis. Sur le territoire de chacun des États membres, et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions. Bon, ben, je crois que je vais voter non. À bientôt.
Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil, familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron ? Jacques Prévert.
Docteur Bolkenstein. Docteur Bolkenstein.
Oui, Igor.
Je vous apporte le cerveau de Robert Schumann, maître.
Je pense que le travail des lobbies, c'est un travail peut-être plus d'influence sur ceux qui sont chargés du monopole de la parole légitime dans l'espace public. Je m'explique autrement, je veux dire par là qu'à mon avis, le rôle des lobbies, c'est peut-être plus de faire passer un discours dans les médias et de convaincre l'opinion publique que oui, il est nécessaire de mener telle ou telle réforme.
Toujours être là où il faut. Avoir à sa portée les dernières nouvelles des marchés du monde entier.
C'est-à-dire que les lobbies, les industriels se sont dit, plutôt que d'informer le Congrès, on va faire les lois nous-mêmes et les proposer aux congressistes, qui vont les voter sans problème, qui comprennent rien aux lois techniques, donc on va s'occuper de ça.
Je crois que le lobbying, c'est un élément qui vient peut-être renforcer des mécanismes, mais que globalement, le monde politique est disposé à être sur la même longueur d'onde que le monde des affaires.
Notre thèse, celle qu'on défend, et celle qu'en fait la théorie économique nous enseigne, c'est que le libre-échange est favorable pour tous les individus.
Alors, en matière de droits sociaux, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus?
Qu'est-ce que vous entendez par droits sociaux?
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bassi J'y suis avec Guy Vanctil Lobby Planète.
Flight number 2, arriving from...
Dr. Bolkenstein. Dr. Bolkenstein.
Oui, Igor.
Je vous apporte le cerveau de Robert Schumann, maître.
Parfait, Igor. Nous allons le mettre dans le crâne d'Emmanuel.
Robert Schumann, 1886-1963.
C'est
un monument très très laid, quoi. C'est une
statue.
Un buste de lui est un peu plus bas.
Mais
la plupart des statues censées montrer l'idéal européen sont très laides.
There's a very ugly one, a statue of celebrating the euro. It's in front of the European Parliament building.
En face du Parlement européen, il y a une statue pour célébrer l'euro. C'est des sculptures typiquement soviétiques, quoi.
Le réalisme socialiste.
This is a realism capitalist.
C'est ça, voilà, tu viens d'inventer le réalisme capitaliste.
Le réalisme capitaliste, mais oui, c'est tout à fait ça. Cette statue de Robert Schumann dans ce quartier, assez hideux, il faut bien dire, mais si important pas seulement en ce moment, mais depuis des années, et sans doute pour longtemps, puisque c'est dans ce quartier de Bruxelles que se fabrique, s'élabore, pas toujours de la façon la plus transparente et pas toujours de la façon la plus démocratique, eh bien, notre vie, nos
dans nos vies quotidiennes, c'est là que ça se prépare. Alors, certains auditeurs vont dire, oui, mais vous avez laissé entendre qu'il s'agit d'un complot. Non, 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 on n'a pas du tout la théorie du complot, on ne démasque rien. On ne démasque rien avec les gens de CEO. C'est cette association qui depuis des années et des années sont des Hollandais, quatre ou cinq Hollandais, qui observent de très très près ce qui se passe à Bruxelles, et notamment le poids des lobbies, la façon dont les lobbies, les groupes d'influence, les cabinets d'influence travaillent sur sur l'Union européenne, sur la Commission européenne. Il n'y a pas du tout de complot. Tout est transparent et ils en administrent la preuve puisque ils organisent des petites visites qui peuvent être assez longues dans ce quartier de l'Union européenne à Bruxelles. Alors on a commencé avec Eric Vesselius la visite vendredi, et puis on va continuer aujourd'hui. Robert Schuman pouvait-il imaginer peut-être après tout ce que serait le poids de ces lobbies, on l'a indiqué, 15 000 personnes à Bruxelles travaillent dans ces groupes, dans ces associations, dans ces bureaux pour au profit. Alors la plupart du temps des grandes entreprises multinationales, des groupes financiers, enfin du business, et pour une part entre le quart et le tiers pour des associations de droits de l'homme, des ONG diverses et variées, des syndicats ou bien représentent des groupements d'intérêt de biens publics, l'intérêt d'une ville ou d'une région. Mais ça constitue entre le quart et le tiers des lobbies présents à Bruxelles. Je dis ça parce que lorsqu'on parle de lobby, on dit oui, mais attendez, s'il y a un lobby qui travaille dans un sens, il y a immédiatement un lobby qui travaille dans le sens inverse. C'est pas vrai du tout. Voilà, il y a des lobbies de toutes sortes. C'est très très inégal entre ceux qui travaillent pour l'intérêt des multinationales et des groupes financiers, des grandes structures financières mondiales, et ceux qui travaillent pour le social. En fait, c'est une, en gros, pour simplifier outrageusement, c'est un cheval et une alouette. C'est un cheval de libéral et une alouette de social. C'est en tout cas la balade d'aujourd'hui, Lobby Planète.
What about this announcement from Rhodia? Obviously the fact that Tira Flake lost so much to get rid of, €7.4 million as CEO, but also the requirement
Aventis decided to
trois lobbyistes devant la porte de l'UNICE, c'est European Employers Confederation.
Ah oui, c'est le MEDEF, c'est le MEDEF européen.
MEDEF is one of the members of.
Le MEDEF est membre de l'UNICE. Et c'est Ernest-Antoine Seigneur qui a quitté le MEDEF avant la fin de son mandat en laissant les pauvres patrons français pour venir prendre la tête du syndicat des patrons européens.
Well, the nameplate is also interesting. It's very makeshift. It's just a piece of paper with some plastic cover.
Oui, c'est vrai.
There wasn't even a nameplate there here in this building since 2 years.
Il y a encore 2 ans de ça, il n'y avait même pas de nom sur le bâtiment. Et là, c'est intéressant de voir que c'est un pauvre papier scotché sous du plastique qui a été mis sur la façade, alors qu'avant c'était une façade complètement anonyme.
Normally, when you would have a corporate office, you would have a nice polished nameplate which proudly announces what's in.
Le siège d'une boîte, il y a toujours des grands logos, des grands sigles qui annoncent la couleur.
But for lobbying, it's very important to be effective, but not to be seen. Voilà. So you have to be discreet.
Alors que pour les lobbies, le plus important, c'est d'être efficace. C'est pas d'être vu. Donc c'est pour ça qu'ils sont très discrets.
Mm-hmm. And then there's one organization that I want to mention, which is in the building and which even doesn't have a name saying.
Il y a une organisation dont je voudrais vous parler aussi, qui est dans ce même bâtiment, mais qui prend même pas la peine de l'afficher dans le hall.
It's the European Services Forum.
C'est le forum des services européens.
And it's representing the European services industries.
Qui représente l'industrie des services européens.
And this is a lobby which was created to influence the European Union's position in the WTO negotiations on services, IGCS.
Et qui est un lobby qui a été spécifiquement constitué pour influencer les institutions européennes dans le cadre des négociations à l'OMC sur l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services.
And what is so typical about this organization? Is that it was not industry that decided, come, let's lobby the Commission and let's influence how they negotiate in the WTO, but it was the predecessor of Pascal Lamy, Liam Britton, who asked one of his friends, a British banker, Andrew Buxton, to create this lobby. So the Commission went to industry and asked them, please come and lobby us, because we need direction. We don't know.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est même pas les grands industriels des services qui se sont ligués pour pouvoir faire pression sur la Commission européenne dans leurs intérêts. Non, non, non. C'est le prédécesseur de Pascal Lamy, le commissaire Léon Britton, qui avait demandé à un de ses amis banquiers, Andrew Buxton, en lui disant, mais il faut que tu crées un lobby des services, parce qu'on a besoin, nous, l'institution européenne, d'avoir un interlocuteur qui nous dise ce que veulent les industriels des services. Donc c'est la Commission européenne qui a elle-même sollicité la création de ce lobby pour la privatisation des services.
We have to walk back then.
Et c'est ce que nous expliquait Eric Vesselius vendredi, c'est que effectivement la Commission européenne est demanderesse de lobby, de lobbying. Le lobbying ne se présente pas comme ça. Vis-à-vis de nous, de notre culture, de nos pays latins, chez qui tout ça est très très péjoratif. Le mot lobby, c'est pas du tout le cas aux États-Unis ou dans d'autres États ou dans d'autres pays. Mais chez nous, c'est comme ça. Mais pourquoi cette demande? Eh bien, elle est justifiée par le fait que les commissions, tout comme le Parlement, sont assez faibles en personnel et en moyens, et il faut donc des experts. Il faut donc des documents, il faut des expertises, ce que fournissent les lobbies. La plupart du temps, ils se présentent comme tels, comme conseils, comme experts. Et donc, voilà pourquoi on se tourne théoriquement vers eux. Mais évidemment, il y a une connivence parfaite et sans complexe entre la Commission européenne et les lobbies représentant des grands groupes. Les lobbies à but lucratif étant, je le disais, largement plus puissants et plus nombreux que les lobbies à but non lucratif qui, la plupart du temps, effectivement, on va le voir, servent d'alibi. Jean Jaurès disait quelque part, la démocratie, malgré les appareils d'information insuffisants ou faussés, finit toujours par connaître les faits essentiels de la vie publique. Espérons que Jean Jaurès a raison, aura raison. En tous les cas, c'est pas la démocratie, c'est pas la transparence démocratique, c'est pas la participation démocratique, ni même la représentation démocratique qui caractérise cette Union européenne et la façon dont les décisions y sont prises. Alors où on va là? On arrive au Residence Palace, c'est quoi?
In the building you have a lot of offices of media companies.
Donc dans ces bureaux il y a beaucoup de compagnies médiatiques, d'information.
But also several think tanks and small groups that want to influence the media here.
Mais aussi il y a beaucoup de think tanks, de laboratoires à idées, et aussi des groupes d'influence qui sont dans le même immeuble, comme ça ils peuvent avoir plus facilement accès aux médias.
Donc là, c'est ce bâtiment Art Deco.
Centre de presse internationale, Résidence Palace. Oh, magnifique. Il y a un hall absolument magnifique avec une fontaine. C'est superbe.
Oui, oui. Dans la salle là, peut-être il y a une réunion, on peut demander.
Ah oui, là il y a des gens qui sont...
So this building is it gives a good overview of what's in here.
Voilà, on a une idée de ce qu'il y a de cet immeuble. La République, la Vanguardia, et juste en dessous il y a les Échos. le quotidien
de
l'économie.
Les Échos, il y a le Bertelsmann Foundation, yeah. Reporter sans frontières.
The organization organizing this meeting is the European Policy Center.
C'est la société, le think tank qui organise cette conférence en ce moment. Là, c'est l'European Policy Center.
C'est très agréable. Hein?
So this is how you do it, the lobbying. So the European,
ça marche, le lobbying,
the European Policy Center,
le centre pour la politique européenne.
This is the guy who runs the European Policy Center.
Il est dirigé par le monsieur qui vient de passer à l'instant en costard cravate.
John Palmer.
He's
one of the directors of the European Policy Center. Now the European Policy Center is one of the main think tanks here in Brussels.
Et le centre pour la politique européenne qui dirige est l'un des principaux think tanks. Ici à Bruxelles.
So it is supposed to be a forum for public debate, kind of general political debate on the European Union.
Alors c'est présenté comme une espèce de forum pour un débat public ouvert sur l'Union européenne. C'est en tout cas comme ça qu'il se présente.
Their audience is mainly businessmen and diplomats.
Et donc ceux qui viennent assister comme maintenant à leur réunion, ce sont essentiellement des diplomates et des businessmen qui se retrouvent.
Of course, they have also taken care of having a few NGOs on board.
Bien sûr, ils font toujours en sorte d'inviter quelques ONG.
Like the European Trade Union Confederation or the World Wildlife Fund.
Comme le syndicat, la Confédération des syndicats européens ou le Fonds mondial pour la nature.
But they're really minority within the European Policy Center, and also if you look at their membership fee is very low, so they're just there to pretend that this is really a neutral organization.
Mais ils sont vraiment très minoritaires dans le centre pour la politique européenne, et d'ailleurs c'est un centre où la participation, les frais de participation sont très bas pour que justement des ONG comme ça puissent venir faire de la lobby, en fait, faire de la présence.
It's the European Policy Center which serves as a front for the corporations.
Et donc le centre pour la politique européenne, ce think tank, sert en fait de façade pour les multinationales, pour les entreprises.
To provide a platform to present their ideas in this kind of pleasant environment.
Et donc c'est comme ça, dans cet environnement très joli, très beau, qu'ils peuvent, grâce à ces façades, présenter leurs idées et faire avancer leurs idées.
Quand tu rencontres ces lobbyistes, est-ce que ce sont des gens qui défendent et qui militent pour leurs idées? Est-ce qu'ils ont une idéologie qu'ils défendent? Ou bien est-ce que, bon, voilà, c'est
some
un bon
them,
job.
Yes, the Lisbon Council, I would say, they are ideologues.
Oui, ceux du Lisbon Council, eux, je dirais qu'ils sont des idéologues.
Or Center for the New Europe also.
Pareil pour le Centre pour une Nouvelle Europe, Center for New Europe.
But many of the lobbyists, for them, it's just a job. So defending a certain opinion, it's just their job.
Mais pour beaucoup de lobbyistes, c'est juste leur boulot, c'est un job de défendre une opinion, de faire valoir une idée.
Of course, most of them will defend the European political system. They like it. It's their environment.
La plupart d'entre eux défendront le système politique européen, puisque c'est leur environnement, c'est ça qui les fait vivre.
It's providing them with a nice source of income.
Ça leur garantit une source de revenus assez importante.
Ouais.
Voilà, encore d'autres responsables arrivent,
really
la voiture en verre fumé.
Ils ont tous le même profil, hein, la même gestuelle, le même body language, le même langage du corps, le même sourire aussi.
Yes. Well, I think many of these will be lobbyists and diplomats.
Ça, c'est principalement tous des lobbyistes et des diplomates, ces gens-là.
Normally, afterwards, they will put some nice wine and some kind of.
Voilà, là c'est juste le début de la conférence, donc. Toutes les tables qu'on va dresser après, ça va être recouvert de ripaille.
Very often, when for example, the European Policy Center or another think tank organizes a meeting, it is combined with a lunch or a dinner.
Et la plupart des meetings, les lobbies et les think tanks, quand ils organisent des réunions, des rencontres, c'est toujours combiné avec un repas ou un
and
déjeuner.
And normally, what they do is they invite this interesting mix of people from business, from the political establishment, and some selected journalists.
Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent des gens du business, des gens des sphères politiques et quelques journalistes bien ciblés.
And so they treat them well, they give them nice food, nice drinks.
Tous des gens qui sont mis ensemble, bien traités, bien nourris, on leur donne à boire des bonnes choses.
Have them in a mellow mood.
On les met dans une atmosphère tendre et calme.
And then, of course, then you have to work the thing that you want to get out of them.
Et après, on peut les travailler pour en sortir ce qu'on veut.
It's not corruption, it's just treating people well and making them feel that they're friends.
Traiter les gens bien et de leur faire sentir qu'ils sont vos amis et qu'on a des intérêts communs.
One time, a few months ago, when Peter Mandelson, the trade commissioner, was his first day in office.
Il y a quelques mois de ça, quand Peter Mandelson, le commissaire en charge du commerce, a pris son premier jour de travail, il est rentré en fonction.
And on his first day in office, he went here for a meeting organized by the Foreign Policy Center, a British think tank, and it was co-organized with Nestlé, and it was about the benefits of free trade.
Mais le premier jour, son premier jour de travail, de prise de fonction en tant que commissaire européen chargé du commerce, il est venu ici pour une réunion qui était organisée par le
Foreign Policy Center,
par le centre de politique étrangère, qui est un think tank britannique, pour une conférence sur l'ouverture du marché, sponsorisée par Nestlé.
So, I mean...
Dès son premier jour de travail.
Ce que je note, alors évidemment toi tu connais le parcours, puisque tu es guide en lobby à Bruxelles, il faut le rappeler, mais alors je ne sais pas si c'est à cause de ton talent, mais on entre partout très facilement. Donc c'est transparent, il n'y a pas un bunker, c'est pas le Kremlin.
Non, c'est ouvert. In a certain way, it's open.
D'une certaine manière, c'est très ouvert.
Voilà, c'est une transparence opaque.
Oui. Oui.
Deux bouteilles de champagne sur le bord de la fenêtre, c'est la cuvée du capitalisme, c'est des magnums de champagne, la cuvée du capitalisme, et ça, on pouvait boire le champagne qui était dedans lors du bal du capitalisme. Vous organisez un bal du capitalisme.
Absolument. Alors, je suis Cécile Philippe, et donc je suis économiste de formation, et je travaille pour le Center for the New Europe. Je suis le directeur de l'Institut économique Molinari. Alors, l'Institut Molinari, c'est un institut d'éducation et de recherche en économie. Donc notre approche, c'est une approche de marché. On préconise les solutions de marché contre l'interventionnalisme.
C'est-à-dire que vous êtes alors franchement libéral. Si on vous dit que vous êtes ultra-libéral, c'est trop?
Ça dépend ce que vous entendez par ultra-libéral. Pour moi, le ultra-libéral, ça n'a pas beaucoup de sens. On est libéral ou on n'est pas libéral. On est pour la liberté des échanges ou on n'est pas pour la liberté des échanges. Mais il n'y a pas véritablement de demi-mesure. Alors, si être ultra-libéral, c'est être pour la liberté des échanges, alors je suis ultra-libéral.
Voilà, les choses sont claires, les choses, on n'est plus là dans l'ombre, dans les choses un petit peu gênées, planquées, complexées, qui agissent par derrière, etc. Là, on y va franchement. On est dans le Center for the New Europe et cette jeune femme s'appelle Cécile Philippe. Il y a avec elle Xavier qui lui aussi travaille et, dans ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire, là on n'est plus dans, tout à fait dans le lobbying, dans le think tank, c'est-à-dire dans ces boîtes à idées, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, notamment à Washington, et qui ont pour but, ben, comme on le suppose, d'influencer, de fabriquer des idées, de faire des recherches au service de cet ultra-libéralisme franchement affiché. Vive le capitalisme, vive l'ultra-libéralisme. Et alors, bon, ce centre n'est pas... Il y en a d'autres qui s'installent. Ça se multiplie, hein, si vous voulez trouver un bon job ou créer un think tank à Bruxelles. Ça se développe. Et celui-ci, le Center for the New Europe, a quand même publié quelques douzaines de livres, plus d'un millier d'articles dans des journaux et magazines, a reçu pour des déjeuners, dîners, discussions, plusieurs centaines de membres du Parlement européen, des employés à la Commission européenne, de hauts fonctionnaires au Conseil
des ministres ou d'autres institutions européennes, ainsi que des étudiants européens, des journalistes et des hommes d'affaires. Et ce think tank s'est connu sous le simple nom maintenant de CNE, CNI. Voilà, c'est un endroit tout à fait sympathique et qui milite à fond pour le capitalisme. We trade the
world. Alors, parlez-nous du centre Center for New Europe.
Alors, ce centre aussi, c'est un institut de recherche. En fait, on est des think tanks, comme on les appelle, comme il y en a des milliers à Washington et comme il commence à en avoir de plus en plus à Bruxelles. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle de Bruxelles comme le nouveau Washington. Nos instituts ne font pas du lobbying. On va pas voir les parlementaires ou les députés pour leur dire vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. On cherche à parler à l'opinion publique par tous les moyens possibles qui atteignent l'individu dans sa maison.
Alors vous êtes d'accord pour qu'on parle d'idéologie ?
Bien sûr.
D'accord.
On défend des idées.
Vous défendez des idées, en l'occurrence une idéologie libérale.
Absolument.
Que vous pourriez résumer comment ?
En deux mots, la souveraineté du consommateur. On veut que ce soit le consommateur qui décide, et comme chacun est un consommateur, et donc forcément les moyens d'y arriver, c'est la concurrence, c'est le libre-échange, c'est la liberté individuelle, sans frontières, sans barrières.
Notre philosophie a plusieurs étendards, libéral européen, pro-marché, individualiste, progressive et bien d'autres encore, nous disons simplement libéraux.
Et ce sont des valeurs auxquelles on croit, c'est la valeur du respect pour chaque individu, l'égalité devant le droit, la possibilité pour chacun de choisir pour sa vie, etc.
Alors en matière de droits sociaux, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus ?
Qu'est-ce que vous entendez par droits sociaux exactement ?
Et les droits sociaux, les droits des travailleurs, les législations sur le travail, la protection sociale.
Notre thèse, celle qu'on défend, et celle qu'en fait la théorie économique nous enseigne, c'est que le libre-échange est favorable pour tous les individus, y compris les moins qualifiés, y compris les plus pauvres, que de toute façon ça bénéficie à tout le monde.
Vous luttez contre l'État-providence.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'État, on pense pas que l'État-providence est un bon moyen pour atteindre un objectif qui est super, qui est celui que nous on défend, qui est celui de la prospérité maximale pour tout le monde. Et voilà, il y a deux moyens. Alors il y a le moyen de passer par les réglementations, passer par un petit nombre d'individus qui vont décider pour tout le monde, donc les réglementations, les cotisations obligatoires, face à justement des échanges volontaires entre individus qui décident de travailler ensemble, qui décident d'échanger, qui décident de circuler, etc. Et ça, ce deuxième volet, on le juge beaucoup plus efficace à la promotion de la prospérité pour tout le monde.
D'accord. Alors, comment vous expliquez que depuis 20 ans, où on voit l'application de vos théories dans la vie de plus en plus, comment vous expliquez l'accroissement des inégalités dans nos sociétés et à l'échelle planétaire ?
Mais écoutez, je suis contente que vous ayez posé cette question parce que justement, je ne pense pas que depuis 20 ans, on assiste à une...
Un accroissement des inégalités, pour vous, non. Il n'y a pas d'accroissement des inégalités.
Je vous avouerai que j'aurais du mal à juger comme ça, un accroissement des inégalités. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a un accroissement des inégalités, c'est pas parce qu'il y a du libre marché à tout craint.
Parce qu'il n'y en a pas assez.
Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus un domaine de l'économie, pratiquement, qui n'a pas fait l'objet de réglementations étatiques, je sais même pas si on peut en citer un domaine qui n'est pas réglementé. En France, les dépenses publiques, c'est pratiquement 60% du PIB. Et après, je trouve, du coup, que l'identification inégalité sociale égale parce que marché libre, je trouve ça extrêmement difficile à faire.
Si on avait plus de déréglementation, c'est-à-dire plus de libéralisme, on aurait moins d'inégalités.
Je pense en effet qu'on aurait beaucoup moins d'inégalités.
On vit un peu le socialisme encore pour vous. Hein. Le mur de Berlin n'est pas tout à fait tombé ici.
Larvé. Un socialisme larvé.
Un mot sur la Constitution européenne quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait voter ?
Xavier ? Est-ce que je vais voter ? Écoutez, ce qui est le plus important, c'est le fait que ça ajoute un étage à la prise de décision politique, c'est-à-dire que le pouvoir politique serait plus centralisé qu'autrement. On doute quand même que ça puisse aboutir globalement à un recul de l'État, à ce qu'il y ait plus de solutions de marché, une fois que ce pouvoir sera centralisé. Donc on est assez sceptique.
Alors, en tant que militant du marché, vous seriez plutôt tenté par le non.
Oui. Oui.
Absolument. Je partage le même point de vue que...
De voter contre la
Constitution. Parce que c'est trop social, trop étatique, enfin trop de protection, ça vous, c'est pas assez libéral.
Non, c'est pas notre argument. C'est vraiment pas notre argument parce que vraiment, il y a de tout dans cette Constitution. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est pour ça en partie que ça déchaîne les passions en France. C'est que tout le monde y voit ce qu'il veut y voir. Donc soit trop de social, soit trop de libéralisme, elle est accusée de tout cette Constitution. Et moi, j'ajoute une couche. Notre accusation, c'est qu'effectivement, c'est un échelon supplémentaire dans la prise des décisions qui éloigne cette prise des décisions de l'individu. Ben forcément, cette constitution, elle n'a pas ma faveur. We trade the world.
Voilà, pas mal, hein, la petite visite. On les laisse avec leur bouteille de champagne. Vive le capitalisme et on retourne. Avec Eric Vesselius du CEO dans la visite de Bruxelles, on va explorer The Corporate Lobbying Paradise, c'est-à-dire ce quartier de l'Union européenne à Bruxelles où eh bien on va de surprise en surprise, d'émerveillement en émerveillement. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier, mais c'est un endroit tout à fait sinistre, une esthétique de bureau. On est très très loin des époques où artistes, musiciens, peintres sillonnaient les routes d'Europe d'une cour à l'autre pour donner un lustre et l'idée d'une civilisation. On parlait tout à l'heure de transparence opaque. On parlait de transparence opaque et Eric Vesselius, qui est hollandais, évidemment ne peut pas ne pas penser, hein, quand on n'a pas des mots pareils, à l'architecture d'Amsterdam, de ces maisons construites au 17e, 18e, qui font le charme de cette ville et qui présentent, si vous vous souvenez, des baies vitrées, des larges fenêtres ouvertes sur la rue et où on aperçoit l'intérieur de la maison comme s'il n'y avait rien à cacher, comme si, voilà, on était... Mais sauf que personne ne vit dans ces partie de la maison qui est présentée de cette façon dans la partie de... voilà, on dit il n'y a rien à cacher, mais quand même. Hein, c'est ça la transparence opaque, et c'est un peu ça qui se présente à Bruxelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complot, rien n'est caché, en principe.
Mais qu'est-ce que ça changera le jour où les lobbyistes deviendront un petit peu plus transparents, comme c'est le cas à Washington, où c'est absolument pas un complexe, qu'il n'y a aucune offense à être lobbyiste, bien au contraire, c'est un métier comme un autre, tout à fait normal et même tout à fait honorable. Le jour où ce sera comme ça aussi ici à Bruxelles, ça n'aura rien changé. Le libéralisme se portera aussi bien.
Clearly, transparency is not the solution to the problem of this corporate political power here in Brussels.
En tout cas, c'est clair que la transparence, c'est pas la solution pour ce pouvoir des entreprises sur l'exécutif à Bruxelles.
But we think that at the moment, it's still important to make people understand that this is a substantial problem.
And pour l'instant, c'est déjà important de faire comprendre aux gens l'importance de ce problème, des questions qu'ils posent.
To convince people of the seriousness of this problem for democracy, we have to have facts.
Mais faire comprendre aux gens de l'importance de ce problème et le poids que ça pèse sur la démocratie, ce lobbyisme, il faut qu'on apporte des faits, des informations aux gens.
And for example, if the transparency legislation would provide us with the budgets of these organizations to show the finance which is behind it, the money which is behind it, I think that would help tremendously in making our case.
Et déjà, si cette directive européenne sur la transparence du lobbyisme nous permettait d'avoir des informations sur les montants qui sont investis pour ce lobbyisme, déjà ça nous donnerait des arguments de poids pour critiquer.
Oui, mais on doit pouvoir défendre, j'imagine, les arguments de ceux qui défendent les lobbies. Ils disent, oui, c'est des influences diverses et variées qui s'exercent.
Des informations.
Parce que moi, je suis compétent pour telle ou telle chose. Oui. Ce que les décideurs ne sont pas forcément, parce que ce sont des politiques. Oui. On voit bien comment la logique du lobby peut être défendue.
Naturellement. But if you look at it from an economic point of view, for business, they can invest in, for example, in promotion material to promote their positions. They will earn the money back later if they succeed in their lobbying efforts.
Et toutes ces sociétés-là investissent, en fait, pour eux, c'est un investissement à terme ou à moyen terme dans le lobbying, en information, pour qu'ils vont récupérer plus tard, une fois que la législation qui est favorable sera adoptée.
Whereas for a non-for-profit organization, it's just you just have to spend money.
Alors que pour une ONG,
you will not earn it back.
Cet argent qui est dépensé pour faire valoir des positions, pour des lois, ou c'est un argent qui est dépensé à pure-pète, il n'y aura pas de retour sur investissement en termes environnementaux ou sociaux.
So the problem with lobbying is that, yes, it's right, that lobbying is a way of getting information, practical information to decision makers. That's right.
I mean, there's a role for lobbying. Apporter des informations. Il y a un rôle pour le lobbying d'apporter des
informations. We're not saying there should be no lobbying.
Aux décisions, à ceux qui prennent des décisions, nous, on ne dit pas qu'il ne devrait pas y avoir de lobby du tout.
But what we're saying is that if lobbying is dominating the political landscape, it's not a democracy.
Mais ce qu'on dit, c'est que si le lobbyisme domine le paysage politique, après, c'est plus une démocratie.
Alors voilà, la question, c'est assainir cette monstruosité qu'est le lobbying, puisque, rappelons-le, et souligner encore, le rêve d'égalité, en fait, est remplacé par l'inégalité entre les groupes de pression, l'influence inégale auprès des institutions européennes, des groupes patronaux et des organisations syndicales en fournit, on le voit, une illustration tout à fait spectaculaire. Alors faut-il assainir, réglementer, ou bien est-ce que c'est est-ce qu'on peut avancer un autre point de vue, un point de vue plus radical? C'est ce que fait Geoffrey Gwens, que nous avons rencontré à Liège, qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « Tout pouvoir confondu », qui est tout à fait remarquable. Il est professeur à la section information et communication à l'université de Liège. On va juste écouter son commentaire, et ce sera le début de l'émission de demain. Enfin, on amorce avec le troisième volet de ce reportage sur les lobbying à Bruxelles. Geoffrey Gwens.
Je crois qu'en réalité, le discours sur les lobbies, comment dire, obscurcit plus la réalité et la compréhension politique qu'il ne l'éclaire. Je crois que le lobby, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je m'explique. Je crois que le lobbying, c'est un élément qui vient peut-être renforcer des mécanismes, mais que globalement, le monde politique est disposé à être sur la même longueur d'onde que le monde des affaires. Alors que le lobbying suppose qu'il y aurait comme une forme d'extériorité de l'un à l'autre. Donc moi, je soupçonne toujours un peu ceux qui pensent le pouvoir en termes de lobbying, d'avoir une vision un peu éthique de la politique et de considérer que finalement, ben, c'est le ver dans la pomme ou que c'est l'impureté dans le monde politique. Il suffirait de nettoyer ça ou de faire un contre-lobbying citoyen, comme peuvent le penser des organisations comme ATTAC, même si ATTAC est... Et bon, il y a différentes composantes, mais le discours dominant dans les médias d'ATTAC, c'est quand même globalement celui-là. Moi, je considère qu'en réalité, les liens sont beaucoup plus étroits et qu'il n'y a pas besoin de faire pression sur les institutions politiques pour que, globalement, elles mettent une politique au service d'intérêts économiques clairement identifiés.
What about this announcement from Rhodia? Obviously the fact that Tirafleet costs so much to get rid of, €7.4 million as CEO, but also the requirement...
Merci à tous, merci à Eric Messilieu de CEO Corporate Europe Observatory, merci à Geoffrey Gwens de l'Université de Liège, Cécile Philippe et Xavier Mera de l'Institut économique Molinari et du Center for the New Europe. C'était un reportage et des traductions et des montages de Guy Van Til. À lire le guide Lobby Planète Bruxelles, The UE Quarter, édité par CEO, et leur site www.corporateeurope.org, Corporate Europe en un seul mot. Et aussi l'Observatoire de l'Europe industrielle, CEO, Europe Inc., comment les multinationales construisent l'Europe et l'économie mondiale. C'est aux éditions Agone. Et puis un autre bouquin aux éditions Agone, si je le retrouve, c'est Mensonges, Lobby, Mediacom de John Stober et Sheldon Rampton. C'est aussi aux éditions Agone dans leur collection Contre-feu, le livre de Geoffrey Gwens qu'on retrouvera demain, Tout pouvoir confondu, chez EPO. Et toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Stéphane De Vernet et Julien Dumont, Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. C'est l'équipe de la base si j'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56. 06 40 37 37 et le mail c'est danielmermerradiofrance.com. Dans 52 secondes, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. Et comme je l'avais promis, vous avez été sur le site www.radiofrance.fr, France Inter, là-bas si j'y suis, et vous avez quoi donc découvert les paroles intégrales de l'hommage que nous voulons rendre avec Jérôme Bourdelon, l'hommage rendu à notre Premier ministre qui nous a offert cette journée du lundi de Pentecôte particulièrement catastrophique.
Une flamme sacrée nous monte du Poitou et la France enivrée salue ton ventre mou. Ernest, emploie ses lumières, vire ton talent, tu passes la salière, et tu réponds présent, ta femme.
Voilà, nous voilà.